des livres plein les oreilles. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Clotilde Saye en votre compagnie, en direct du Chic Studio de Canal M qui produit l'émission Des livres plein les oreilles qui se consacre aux livres audio. Nouvelle émission que je vous présente aujourd'hui. Cette semaine, les livres audio que j'ai choisi de vous faire entendre tournent tous autour du « nous ». Nous. Vous et moi, nous. En tout cas pour la première partie, ce ne sont uniquement que des nouveaux livres, du moins ils ont vu le jour l'an dernier en 2024, certains même en novembre ou en décembre 2024, à une exception près qui nous touche de près. René Lévesque et nous. En seconde partie, Gérald Cousineau nous revient bien sûr cette année avec quelques-unes de ses trouvailles en audio, trouvailles audio qu'il affectionne et dont il nous parle si bien. Cette semaine, ce sera Frapper l'épopée d'Alice Zeniter. La cerise sur le cadeau, de nouveautés bien sûr. Le « nous » donc, et on commence avec René Lévesque et « Nous, 50 regards sur l'homme et son héritage politique », un livre écrit en 2021 par Marie Grégoire et Pierre Jeuns, qui a été enregistré par Dominique Quesnel et Martin Desgagnés. En 1960, vous vous en souvenez sûrement, René Lévesque fait le saut en politique avec l'équipe du tonnerre, comme il l'appelait de Jean Lesage. Ministre des Ressources naturelles, l'ancien journaliste pilote ce projet de nationalisation de l'électricité. Sa conviction profonde que le Québec doit être maître de son destin l'incite à fonder le mouvement Souveraineté Association et puis le Parti québécois. C'était à l'aube de son 100e anniversaire de naissance qu'on avait sorti ce livre et ce livre audio, et on se demandait à l'époque, mais que reste-t-il de lui et de l'empreinte qu'il a voulu laisser sur le Québec? Les auteurs sont allés à la rencontre de membres de sa famille, d'amis, de collaborateurs, d'observateurs, d'adversaires, pour tenter de répondre à cette question complexe. Et ceux-ci, nous disent-ils, se sont confiés avec franchise pour nous faire découvrir leur René Lévesque dans ce portrait intime et pluriel, dont voici un extrait. La question, pourquoi un autre livre sur René Lévesque?
La cigarette au bec, tu oses du firmament. Tu dois regarder le Québec puis te dire que c'est bien décevant. Quand tu vois les pas bons et tous les petits carriéristes qui se présentent aux élections comme des vrais opportunistes, c'est quand même un peu dommage de voir que de ton héritage il reste juste ma petite chanson puis un boulevard à ton nom.
Dans ce cas-ci, la réponse est facile. Parce que tout n'a pas encore été raconté sous ses multiples facettes. Et plusieurs témoins avaient encore à raconter sur ce leader qui a profondément marqué les Québécois. René Lévesque et moi. Février 1984. Je viens d'être recruté par le député de Groulx, Élie Fallu, pour une fonction qui n'existait pas encore à l'Assemblée nationale, attaché politique d'un député. Je suis seul à son bureau de Québec et je m'occupe de tout. La recherche pour des commissions parlementaires, l'agenda, la correspondance, la liaison avec l'équipe dans la circonscription, les relations de presse locale, le rangement dans des classeurs, ceux de cet intellectuel débordaient, et le téléphone. Les cellulaires et Internet n'existaient pas à l'époque. Cette année-là, M. Lévesque était venu dans la circonscription de Groulx. Il avait visité notamment l'usine de General Motors à Boisbriand. Je le revois encore mettre le protocole de côté en sortant du trajet prévu pour aller serrer la main aux travailleurs et se faire photographier par quelques-uns qui avaient apporté leur caméra munie d'un flash cube. Lorsqu'il entrait au salon réservé à sa formation politique, au Café du Parlement, où j'avais le privilège d'aller, René Lévesque était électrisant sans le chercher. Il saluait timidement les élus, mangeait rapidement en lisant ses journaux. Il s'intéressait davantage aux week-ends de camping et aux différents potins de la serveuse attitrée à ce salon, Marcel Coulombe, confidente des élus péquistes depuis 1970, qu'à ses collègues. Et je me questionnais, quel est l'homme derrière ce personnage plus grand que nature? Comment parvient-il à voir si loin et si grand pour le Québec? Comment est-ce de travailler à ses côtés? comment est-il avec ses proches? Au-delà de son obsession à transformer le Québec, de l'amour qu'il avait envers son peuple et de son honnêteté, à peu près jamais remise en question, il m'apparaissait complexe, aspiré, presque torturé par sa fonction de premier ministre, au détriment d'une vie personnelle quelque peu normale. J'entendais toutes sortes de commentaires et de rumeurs à propos de ce travailleur acharné, amateur de cartes et séducteur. À cette époque, jamais je n'aurais pu imaginer que Marie Grégoire, une jeune militante libérale que je ne connaissais pas, et moi allions écrire un livre à son sujet. René Lévesque et nous. Marie Grégoire et moi avons voulu connaître le René Lévesque de très nombreux témoins qui l'ont côtoyé à des époques et dans des circonstances très variées. Nous avons recueilli plusieurs témoignages, empreints d'émotion, de ses collaborateurs et de ses élus, des membres de sa famille, de ses observateurs et de ses adversaires. Bien que certains aient déjà commenté leur relation avec lui et même publié des livres à son sujet, ils ont partagé avec nous des propos inédits. D'autres ont accepté de parler publiquement de lui pour la première fois. C'est le cas de sa petite sœur Alice et de son garde du corps, Victor Landry. Dans ce livre, ses meilleurs et ses moins bons coups sont donc racontés avec franchise par ceux et celles qui étaient à ses côtés. Aussi étonnant que cela puisse paraître, plusieurs commentaires élogieux nous ont été livrés par des adversaires de M. Lévesque, alors que de sévères critiques ont été formulées par des collaborateurs. Malgré leurs différentes allégeances, néanmoins, tous nous ont parlé à leur façon d'un visionnaire. D'un leader qui voulait éviter à ses successeurs des problèmes qu'il était à peu près le seul à anticiper à certains moments. Et d'un homme politique qui jouait dur, mais fair play.
Après René Lévesque et nous tout court, nous de Christelle Dabos, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose. C'est à elle qu'on doit notamment la série La Passe-Miroir, que j'avais eu l'honneur et le plaisir d'ailleurs de lire en audio. Cette fois-ci, elle nous revient avec Nous, N-O-U-S, une dystopie dans laquelle on retrouve Claire, on retrouve aussi Marthe, celle qu'on va entendre dans l'extrait. Claire qui vit dans un monde où le « nous » a pris le pas sur le « je ». C'est-à-dire que tout un chacun participe à la bonne marche du monde en faisant partie du « nous » et en étant complètement dépossédé de son individualité. C'est du grand Christelle Dabos. Chaque détail nous amène un peu plus vers ce « nous » qui nous effraie, nous obnubile même. On veut évidemment en savoir un petit peu plus sur ce qui transforme « nous » et nous fait reconsidérer ce besoin de « nous » dans la vie quotidienne. Oui, ça a l'air un petit peu compliqué, alambiqué, tout ça, mais en fait, tout tourne autour du « nous » et le « je » a été complètement éradiqué. C'est ce que je suis en train de vous dire. En bref, toujours beaucoup de matière à réflexion, écrit une autrice sur Babelio, un énorme kiff littéraire, on en veut plus, et en même temps, ce texte se suffit à lui-même. En voici un extrait de « nous ». C'est un multivoix, mais hélas, seule la voix de Clémentine Aussour se fait entendre. Très bonne voix d'ailleurs et très bonne narration.
Cela, elle évite de s'asseoir à côté dans les transports. À chaque fois que l'un d'eux avise sa marque et découvre qu'elle est réparatrice aussi, ça ne manque jamais. Il se sent obligé de parler boulon. Tout le trajet. Et s'il apprend, cerise sur le gâteau, qu'elle est encore en internat à l'école de la réparation, il se fait un devoir de lui raconter en détail son propre apprentissage. « Ah là là, toute ma jeunesse, ça, mademoiselle, c'était le bon temps, profite tant que tu peux !» Elle croirait entendre ses grands cousins. « Profiter de quoi ?» Les cours ne lui apprennent rien que son instinct ne sache déjà. Quant à son stage à la société de maintenance des ascenseurs dont elle sort, ça lui donne un aperçu assez étriquant de ce que sera le reste de sa destinée. Visser, dévisser, revisser. Elle s'appelle Marthe, au fait, mais ce n'est pas très important. Elle colle sa joue à la vitre du bus et observe le balai des piétons. Ce nettoyeur, avec son balai brosse, qui débarrasse le trottoir de tout ce qui pourrait faire trébucher les gens. Cette aimante en roller, qui fait sa tournée de câlin à quiconque aurait le vague à l'âme. Ce gamin qui aide déjà sa maman à porter les courses. Il n'a pas encore reçu sa marque, mais ça ne saurait tarder. Il doit approcher des 11 ans. Dans leurs yeux, le même éclat, la même urgence. L'osmose du nous. Marthe lève le nez pour regarder le défilé cubique des immeubles. Du béton rouge, des châssis en aluminium, des toits-terrasses, des tags partout, ils se ressemblent tous. À une exception, le gratte-ciel des très hauts du sud, là-bas, au loin. Étincelant et spectaculaire. Marthe le contemple depuis son petit siège de rien du tout au fond du bus, écrasé par sa taille. Ils doivent avoir de fameux ascenseurs là-dedans. Mais ils disposent de leur propre service de maintenance. Elle n'y est jamais allée. Elle n'est pas assez importante. Elle n'a sauvé aucune vie. Elle ne fait que visser, dévisser et revisser. Elle trouve quand même drôle d'appeler ça le gratte-ciel des Très-Hauts. Car concrètement, à part les quatre séraphins du Sud qui résident entre le 80e et le 99e étage, il n'y a que des saints là-dedans. Une quantité de vertueux, pas mal d'anges, quelques archanges et une dizaine de trônes. Mais bon, saints ou très hauts, ce ne sont que des noms, au fond. Marthe déglutit. Si quelqu'un dans ce bus savait à quoi elle songe, elle se ferait dénoncer sur le champ. Est-elle la seule à en avoir des pensées profanes? Les très hauts et les saints sont sacrés. Elle est sacrée, elle aussi. Ils sont tous sacrés. Car ils ont tous un instinct et aux yeux du nous, tous les instincts sont égaux. Marthe resserre les doigts autour de sa boîte à outils.
Une sorte de 1984 à la sauce 2024, écrite par Christelle Dabos. Je vous rappelle que c'est celle qui nous avait donné La Passe Miroir, la série La Passe Miroir. Retour au Québec avec L'Histoire nous le dira, sous-titre Tabarnouche, pâté chinois et autres traits culturels du Québec de Laurent Turcot, et c'est lu par lui-même. Qu'est-ce qui fait que le Québec est tel qu'on le connaît ? Nous pourrions dire, et là je lis exactement la description qu'on nous fait du bouquin, nous pourrions dire que c'est grâce à sa culture, entre autres choses. Mais de quelle culture parle-t-on exactement? Il y a notre langue avec ses sacres, ses accents, ses expressions. Il y a aussi notre gastronomie avec sa poutine, son sirop d'érable et son fameux pâté chinois, qui on sans doute ne vient pas de Chine. Ensuite, il y a le sport, par exemple le hockey, avec ses grandes rivalités et les émotions fortes qu'il suscite chez les Québécois. Nous n'avons qu'à penser à la fameuse bataille du Vendredi Saint en 1984. Parlant de saints, le calendrier religieux a longtemps ponctué l'ordinaire de la vie du Québec, malgré tout. Savons-nous pourquoi nous célébrons le jour de l'an, la fête des rois, ou la Saint-Valentin, ou ces fêtes bien québécoises comme la Saint-Jean-Baptiste et le Carnaval de Québec ? De plus, la façon dont nous nous sommes dotés d'un système de santé et comment nous nous sommes soignés à travers l'histoire s'avère également un parcours bien singulier. Le Québec, c'est tout cela et c'est plus encore. Voici un extrait, c'est le seul qu'on nous permet d'obtenir, à moins d'avoir le livre audio dans son intégralité, ce que je n'ai pas. Et je vous préviens tout de suite, c'est un extrait qui fait mal, qui me fait mal à moi aussi beaucoup. Encore une chance qu'au milieu, enfin au début et à la fin, M. Yves Dutheil va venir adoucir un peu tout ça.
C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Durand, en 1839, soumet son rapport qui mènera à l'acte d'union en 1840. Pour lui, les Canadiens français forment, et je le cite, « une société vieille et retardataire, un peuple sans histoire et sans culture ». Fin de la citation. qu'il faut assimiler. Durham recommande que le gouvernement britannique fasse rapidement venir des Anglais dans la province et que le gouvernement soit confié à, je cite, « une assemblée décidément anglaise ». Fin de la citation. La volonté d'assimiler purement et simplement les Canadiens français est clairement établie. D'autant plus que plusieurs anglophones considèrent que le français qui est parlé ici n'est rien d'autre qu'un vulgaire French Canadian patois. À leurs yeux, comme il ne s'agit pas d'un vrai français, l'assimilation n'en sera que plus facile. Pour certains, il faut revenir au français parlé en France, se calquer sur lui, l'épouser. Un de ceux qui va fustiger et corriger la langue d'ici est Thomas McGuire, à prononcer McGuire, comme la rue à Québec. Il naît à Philadelphie et apprend le français au contact de Français de France, en même temps qu'il devient prêtre catholique. Il finit par s'installer à Québec et entend purger la langue de ce qu'il considère comme des barbarismes. En 1841, McGuire publie son « Manuel des difficultés les plus communes de la langue française », qui n'est ni plus ni moins qu'une charge contre le français canadien. Le prêtre y dénonce des locutions vicieuses, entendant par là toutes celles qui ne se retrouvent pas dans les dictionnaires français. Plus encore, McGuire entend promouvoir, et je cite, « un mouvement pour une prononciation soignée dans le discours public ». Fin de la citation. Citons encore Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, une dizaine d'années avant de devenir le premier ministre du Québec en 1867, écrit, et je le cite, « La classe lettrée ne soigne pas toujours autant la prononciation qu'elle devrait le faire. » Fin de la citation. En 1896, Raoul Rinfret, dans son « Dictionnaire de nos fautes contre la langue française », écrit, et je cite, en général, nous le prononçons grave dans une foule de mots où il est doux. Nous donnons par erreur le même son à phare et fort, tard et tort, vieillard et vieillard, etc. C'est un de nos principaux défauts de prononciation. Fin de la citation. Pour Joseph Dumay, en 1905, le constat est encore plus dur. Selon lui, et je le cite, « il est souvent plus agréable d'écouter parler un Français ignare qu'un Canadien instruit ». Fin de la citation. On peut véritablement parler ici d'une campagne de rectification langagière qui se met en place et qui prend plusieurs formes, à commencer par la parution de recueils de fautes et de chroniques de langage correctif dans les journaux. D'ailleurs, au tournant du 19e et du 20e siècle, il y aura de plus en plus de manuels consacrés à la diction. L'idée était de revenir à une langue plus pure, celle de France, qui seule peut donner le « la » sur le bien-parler. Le linguiste Claude Poirier voit ici les origines du complexe linguistique des Québécois, ce que Chantal Bouchard qualifie de « perte de légitimité » et ce qu'Anne-Marie Baudouin-Bégin appelle « l'insécurité linguistique ». Toujours est-il qu'à partir de la seconde moitié du 19e siècle, on fustige la manière de parler à la canadienne. Cela devient un défaut national qu'il faut corriger par tous les moyens. La nécessité pour McGuire, comme pour plusieurs, de rétablir la langue et la prononciation est d'autant plus fondamentale que les anglophones considèrent la mauvaise qualité du français comme synonyme d'inculture.
Fait mal, celle-là. Synonyme d'inculture. Aïe, 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 aïe. C'est extrait d'un livre qui s'appelle « L'histoire nous le dira ». Je vous rappelle que nous sommes dans la thématique du « nous » en cette première partie de l'émission « Des livres plein les oreilles ». « L'histoire nous le dira », ça a été écrit et lu par Laurent Turcot qui nous racontait tous ses faits d'armes au sujet de la langue française et de tout ce que les uns, d'ailleurs surtout des anglophones et les autres, en pensent. Incroyable, mais vrai. Bon, Gabriel Garcia Marquez, c'est un titre de lui qui était resté non édité. Et on a retrouvé ce livre, on l'a édité, et maintenant il existe en livre audio. Ça s'appelle « Nous nous verrons en nous ». Je le prononce à la française, mais évidemment ici ce sera en août. Mais je trouve que c'est sympa. Nous nous verrons en nous. Voilà. Donc au mois d'août, Gabriel Garcia Marquez, c'est lu par Audrey Sourdive. C'est pas un grand livre, ça dure seulement 2h15 dans sa version audio. Il était absurde d'attendre une année entière pour soumettre au hasard d'une nuit le restant de ses jours. De quoi parle-t-on? Eh bien, on parle d'un certain 16 août, où une jeune Anna Magdalena Bach prend un ferry tous les ans, et cette fois-ci ne fait pas exception, pour passer une nuit sur l'île où est enterrée sa mère. Elle est complètement indifférente à la splendeur des Caraïbes, car nous sommes dans les Caraïbes, on ne précise pas où exactement. Elle se contente de déposer un bouquet de glaïeul sur la tombe de sa maman avant d'aller retrouver son mari. Mais l'été de ses 46 ans, une aventure. Elle va vivre une aventure avec un inconnu qui va précipiter son destin. Anna Magdalena, qui va découvrir alors ce qu'est l'infidélité, ce qu'est surtout la passion des corps en même temps que le dépit amoureux. La voilà prise dans une spirale érotique. Chaque pèlerinage sur l'île lui réserve un nouvel amant. En comprenant l'origine de l'attachement de sa mère à cette lagune peuplée de hérons bleus, on se pose la question, mais alors Anna Magdalena échappera-t-elle au sortilège des Caraïbes? On nous précise que ce livre, Nous nous verrons en nous, est une œuvre d'une intense sensualité, vous vous en doutez, dans laquelle Gabriel Garcia Marquez déploie tout son talent pour brosser le portrait d'une femme libre. La publication de ce roman inédit annonce les retrouvailles exceptionnelles avec le prix Nobel de littérature colombien. Voici un extrait lu par Audrey Sourdive, à qui on a confié la lecture de l'intégralité de ce livre de Gabriel Garcia Marquez, « Nous nous verrons en nous ».
Elle poussa sans effort le portail rouillé, s'engagea avec son bouquet de fleurs dans l'allée entre les tumulus étouffés par la végétation. Il y avait, au milieu, un capoquier aux grandes branches qui lui permit de s'orienter pour retrouver la tombe de sa mère. Les arêtes des graviers lui blessaient les pieds malgré l'épaisseur des semelles de crêpes, déjà chaudes, et le soleil filtrait au travers du satin de l'ombrelle. Un iguane surgit des broussailles, s'arrêta net devant elle, la regarda un instant et détala à toute allure. Après avoir enfilé les gants de jardin qu'elle avait mis dans son sac, il lui fallut nettoyer 3 pierres tombales avant de reconnaître le marbre jaunâtre avec l'inscription du nom de sa mère et la date de son décès, 8 ans auparavant. Chaque 16 août, à la même heure, elle faisait le même voyage, prenait le même taxi, s'arrêtait chez la même fleuriste et, sous un soleil de feu, dans ce même cimetière indigent, venait poser un nouveau bouquet de glaïeul sur la tombe de sa mère. Puis il ne lui restait plus rien à faire jusqu'au lendemain, à 9h du matin, quand le premier bac du retour prenait la mer. Elle s'appelait Anna Magdalena Bach, était âgée de 46 ans, dont 26 vécut en bons termes avec son mari, qu'elle aimait et qu'il aimait. Elle s'était unie à lui sans avoir terminé ses études d'art et de lettres, encore vierge, et sans avoir eu au préalable le moindre amoureux. Sa mère, qui s'était distinguée en appliquant la méthode Montessori dans le primaire, n'avait jamais voulu pousser plus loin de toute sa vie, malgré ses mérites. Anna Magdalena avait hérité d'elle la splendeur de ses yeux dorés, la vertu de la discrétion et l'intelligence de savoir maîtriser son tempérament. Sa famille se composait de musiciens. Son père avait été professeur de piano et directeur du Conservatorio Provincial pendant 40 ans. Son mari, lui aussi fils de musicien et chef d'orchestre, avait succédé à son beau-père à la tête du conservatoire. Ils avaient un fils, exemplaire. Premier violoncelle de l'Orchestre Symphonique National à 22 ans et applaudi par Mstislav Leopoldovitch Rostopovitch lors d'un concert privé. Quant à leur fille de 18 ans, elle avait une facilité confinant au génie pour jouer à l'oreille de n'importe quel instrument, ce qui lui convenait surtout comme prétexte pour passer la nuit dehors. Elle aimait d'un amour allègre un excellent trompettiste de jazz, mais voulait entrer dans l'ordre des carmélites déchaussés, contre l'avis de ses parents. En apprenant que 3 jours avant de mourir, sa mère avait fait savoir qu'elle désirait être enterrée dans l'île, Anna Magdalena s'était prononcée. Elle voulait être du voyage, ce que personne n'avait trouvé prudent, d'autant moins qu'à l'entendre, elle ne croyait pas pouvoir survivre à son chagrin. son père ne l'emmena dans l'île qu'un an plus tard, quand on posa la dalle de marbre qui alors manquait encore à la tombe. Elle fut effrayée par la traversée en hors-bord qui dura près de 4 heures, sans un instant de mer calme. Mais elle admira les plages de poudre blonde au bord même de la forêt vierge, les oiseaux tapageurs et le vol fantomatique des hérons sur les eaux dormantes de la lagune côtière.
Gabriel Garcia Marquez, nous nous verrons en nous. Je vous rappelle que c'est lu par Audrey Sourdive. C'est sorti à la fin de l'année dernière. Parlant de Gabriel Garcia Marquez, en ce moment même sur Netflix, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est sorti un petit peu avant les fêtes, mais il y a une série qui a été tirée de 100 ans de solitude. J'ai commencé à regarder, je vous avouerai que j'ai un petit peu de mal, comme la même manière que j'ai eu du mal à lire le bouquin, mais c'est vrai qu'il y a des moments excessivement beaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ambiance de Gabriel Garcia Marquez a été respectée. On sent la même chaleur pénétrante, on sent toute l'histoire est là. Je ne saurais que trop vous recommander soit de le lire, soit de l'écouter, ou encore peut-être d'aller sur Netflix pour pouvoir regarder la série qu'ils en ont faite de 100 ans de solitude. Dans quelques secondes, je vais recevoir Gérald Cousineau qui va nous faire un rapport détaillé de sa lecture de Frapper l'épopée. Et moi, je vais vous proposer, pour finir cette émission des livres plein les oreilles, deux nouveautés. D'abord, le livre audio fait d'un best-seller, également sur Netflix, La sage-femme d'Auschwitz. Mais si vous préférez, vous faites ce que vous voulez, hein. Soit vous allez écouter directement la série, soit vous lisez le bouquin, soit vous lisez maintenant le livre audio. Vous pouvez tout faire avec ce livre, La sage-femme d'Auschwitz. Et puis, comme ça, c'est vraiment un livre un petit peu dur, vraiment très, très, très pour les adultes, eh bien, j'ai choisi aussi deux nouveautés pour les plus jeunes. Un livre pour les jeunes de 8 à 12 ans, et un autre carrément pour les tout petits, pour les endormir. Vous écoutez Des livres plein les oreilles avec Clotilde Sèvres. Gérald Cousineau est au bout du fil. Salut Gérald.
Salut Clotilde.
Comment ça va en ce début d'année? D'abord, merci d'être là avec nous. Là, c'est trop tard pour qu'on se la souhaite bonne, mais de toute façon, elle le sera. Mais merci encore d'être avec nous cette année. Gérald, trêve de plaisanterie. C'est toujours un grand plaisir de vous te avoir dans notre petite équipe.
Je compte y être pour les 25 prochaines années encore.
Ah bon, bah alors là, je suis soulagée. Moi, j'ai décidé d'en faire au moins 10, mais après, on verra.
Bon. D'accord.
Alors, tu as choisi pour ce début d'année, cher vous, Gérald Cousineau, Frapper l'épopée d'Alice Zeniter, j'imagine qu'on prononce comme ça.
Oui, j'ai entendu les deux, mais comme elle est peut-être d'origine algérienne, je dis peut-être parce que je vais en reparler, mais peut-être qu'on pourrait dire Zeniter, oui. Bon. Donc Alice Zeniter, née en 1986, ce qui veut dire qu'elle est jeune quand même.
Quelle jeunesse.
Elle n'a pas 40 ans. Et son dernier roman, je mets le mot entre guillemets aussi, L'art de perdre. Dans ce roman ou récit, elle s'interrogeait déjà sur ses origines algériennes. Dont le titre m'a paru un peu bizarre, mais au tout début du livre, il y a une citation. Et dans la citation, on entend frapper l'épopée. Mais j'ai mal entendu, donc je ne peux pas savoir vraiment je ne peux pas vraiment expliquer le titre de frapper l'épopée. Donc, nous sommes en 2022. Et nous sommes à la fois en France, à Orléans plus précisément, et nous serons bientôt à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Alors nous avons un personnage qui s'appelle Tass, T-A-S-S, apparemment c'est un diminutif de Tassadi, ou Tassadite. Donc cette jeune femme qui est enseignante, elle a un copain à Orléans, un copain qui se prénomme Thomas. Eh bien, elle va le quitter, elle va rompre avec lui, et là, elle va rentrer chez elle, à Nouméa, parce que c'est là qu'elle est née. Nouméa, c'est en Nouvelle-Calédonie. Et première question, combien de gens peuvent situer la Nouvelle-Calédonie? Je pense que si je faisais passer un examen, il y aurait beaucoup d'échecs, là. Eh bien, la Nouvelle-Calédonie, on en a parlé récemment, hein, il y a eu des émeutes.
Ce sont dans les îles françaises, c'est près de Tahiti,
est-ce qu'on peut dire un protectorat, je ne sais pas, mais ça appartient à la France. C'est un peu au nord de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, montant vraiment Pacifique Sud. Donc, c'est un archipel, et la jeune femme que j'ai prénommée, enfin, qui est prénommée Tass, donc, quitte Paris. Et là, elle va se taper littéralement le long vol Paris-Nouméa. C'est très long, vous devinez que c'est très long. Et à Nouméa, donc la capitale de la Nouvelle-Calédonie, elle va retourner, elle va reprendre son poste d'enseignante de français remplaçante.
Est-ce que ça vous dirait qu'on écoute peut-être l'extrait?
Parce que je
crois me souvenir qu'on est justement au début, alors que... Ben, on va l'entendre.
Et oui, ça nous met dans l'ambiance tout de suite.
Voilà.
La rentrée n'aura pas lieu avant quelques semaines. Ça lui laisse le temps de se faire à la pellicule de sueur sur la peau, aux joues rouges, à la terrible paresse du début d'après-midi. Une partie de la ville est encore en vacances. Nouméa sera molle et vaguement désertée. Les amis s'égrènent sur tous les territoires voisins. Le Vanuatu, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, la Gold Coast australienne. Peut-être qu'elle n'aura personne à qui raconter ce qui s'est passé au nord de l'équateur. Personne avec qui boire du rhum et des number one, en criant que « c'est fini Thomas, plus jamais Thomas, et c'est lui qui va le regretter, je te jure, parce que sa vie sans moi est tellement ennuyeuse. » Lorsque la lumière se rallume dans l'avion, Tass se répète qu'elle est heureuse de rentrer enfin pour de bon. Les allers-retours des dernières années pour essayer de faire exister sa relation amoureuse malgré la distance lui ont apporté une forme d'inquiétude permanente, une instabilité nerveuse ainsi que la culpabilité de multiplier sans cesse les petits mensonges. En métropole, elle allongeait constamment la durée de son séjour, répondait qu'elle était là pour 2 mois dès que son voyage en excédait un, ne serait-ce que de quelques jours. En Calédonie, elle lançait toujours distraitement qu'elle partait pour 2-3 semaines, alors qu'elle savait parfaitement qu'elle ne serait pas de retour avant 5. Elle cherchait à appartenir aux 2 endroits à la fois. À montrer à son entourage ici, comme à son entourage là, qu'elle était des leurs.
Bien qu'elle voulait appartenir à 2 endroits à la fois.
Oui.
La métropole, enfin la France, et Nouméa. Mais, comme je l'ai dit, un jour, elle en a marre de son copain Thomas. Elle va quitter la France, elle va rentrer. Et elle pense rentrer définitivement à Nouméa. Elle reprend son poste. D'ailleurs, dans le titre, dans l'extrait, on parle de la rentrée scolaire. Donc, elle reprend son poste. Et un jour, dans l'une de ses classes, elle remarque 2 autochtones. Et des autochtones de ce coin-là, on les appelle des Kanaks. Elle remarque 2 jumeaux, le frère et la sœur. Et le jeune homme s'appelle Célestin. Il est, paraît-il, d'une beauté rare. Et sa sœur Pénélope, elle, est moins jolie. Mais ils sont brillants. Ce sont 2 élèves brillants, mais très mystérieux. Et un jour, ils disparaissent de l'école. On ne sait plus où ils sont passés. Alors, on se demande, est-ce qu'ils feraient partie d'un mystérieux groupe indépendantiste? Rappelez-vous ce qui s'est passé récemment. Il y a eu un mouvement indépendantiste. Il y a eu des émeutes. Bon, alors, Tass se demande, est-ce qu'ils feraient partie d'un mouvement indépendantiste? On ne sait pas trop. Elle va partir à leur recherche. Donc, elle va se promener dans la Nouvelle-Calédonie. Elle va rencontrer l'oncle des 2 jumeaux. Il ne sait pas où ils sont passés, patati patata. Donc, elle va chercher. Mais là, il arrive une chose bizarre pour elle et pour le lecteur. C'est-à-dire qu'elle va comme... Il y a une part un peu de fantastique dans ce roman.
Ah oui?
Elle va tomber dans un trou d'eau. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va lui permettre de remonter dans le passé où elle rencontre, où elle voit ses ancêtres, parce qu'elle les cherchait dans la Nouvelle-Calédonie. Elle voulait savoir d'où ses origines. Donc, elle tombe dans ce trou d'eau, le passé remonte, et plus que le passé, parce qu'elle va voir ses ancêtres, et en même temps, elle va être basculée, et c'est le mot de l'écrivaine, elle va basculer hors du récit. Autrement dit, elle va sortir du roman. Et qui est-ce qui fait la narration ensuite? Eh bien, c'est l'écrivaine elle-même, Alice Zanetta, qui prend la relève, et là, c'est assez curieux quand même que l'écrivaine, à un moment donné, prend la parole au milieu d'un roman, un livre qui se veut un roman. Elle prend donc la parole et là, elle parle elle-même de sa quête, de ses origines. Bon. Et là, elle nous apprend plein de choses. On va apprendre comment la France a mis la main, si je peux dire, sur la Nouvelle-Calédonie, ça date du 19e siècle, il y a eu un drapeau français, etc. Et, chose que beaucoup de gens ignorent, comment la Nouvelle-Calédonie est devenue une colonie pénitentiaire de remplacement à la Guyane.
Ah, c'est ça.
Ça, je l'avais oublié. Alors, et encore une chose encore plus surprenante, on y envoyait, entre autres, Bagnard, des Algériens, des déportés algériens. Pourquoi? Parce qu'en 62, c'était la fin de la guerre d'Algérie. Alors, on a envoyé là quelques déportés algériens. Et c'est pour ça que je me suis demandé, quand j'ai lu ça, mais qu'est-ce que les Arabes font en Nouvelle-Calédonie? Voilà. Donc, on a envoyé là, il y a de longs passages sur la vie des Bagnards. Et toutes les colonisations, bien sûr, comment les Blancs sont arrivés à Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Autochtones, les Kanaks qui étaient déjà là? Donc, tout ça nous a raconté longuement. Et ça m'a un peu déconcerté parce que je me suis dit, j'ai lu quelques critiques à gauche et à droite, et il y a une critique entre autres qui parlait d'un roman passionnant et émouvant. Ben, je veux pas être méchant, moi je dirais pas que ça m'a passionné. Et je dirais pas non plus que ça m'a ému. Ce que j'ai apprécié, c'est la partie historique. On apprend beaucoup de choses sur la formation de cet archipel, et comment on l'a peuplé, la colonie pénitentiaire, etc. Mais dire que j'ai été ému par les personnages, pas vraiment. J'ai appris aussi qu'elle avait écrit d'autres livres. Et il y a comme une froideur. Elle raconte d'un ton assez froid, assez réservé. C'est pas toujours facile pour le lecteur d'avoir de l'empathie pour le personnage principal, même si au départ, elle est très sympathique. Mais ça reste un peu froid. C'est mon avis à moi. Ça reste un peu froid, mais...
On l'entend d'ailleurs dans l'extrait. La façon dont elle dit, bon, regarde... les choses étaient comme ça. On sent déjà qu'il y a comme une froideur terrible.
Oui, c'est toujours un peu inquiète. Et à un moment donné, on dirait qu'on se lasse de cette inquiétude. On aimerait qu'elle se branche une fois pour toutes. Et bien sûr, j'ai aimé le livre. Encore là, j'ai du mal à parler de roman-récit. Ne serait-ce que pour la partie historique. Et bien sûr, on rêve beaucoup au paysage. Parce que vous l'imaginez, c'est dans le Pacifique Sud. On n'est pas loin des îles Fidji. Donc, d'ailleurs, dans l'extrait, on sentait la chaleur. La pellicule sur la peau, on sentait la chaleur. Donc ça m'a beaucoup plu. Moi, je m'intéresse beaucoup à la dimension géographique des romans. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et la partie, bien sûr, historique. Mais le personnage humain de Tass, je ne peux pas dire qu'il m'a ému beaucoup.
C'est fou parce que vous me parlez de ça et vous vous souvenez, en décembre, donc c'était pas vieux, il y a eu cet ouragan à Mayotte, qui est également un territoire français, et tout le monde s'est dit, mais où c'est, quoi? C'est vrai, on avait du mal. Bon, finalement, c'est au large de l'Afrique de l'Ouest, pas loin du Mozambique, par là. Oui. Et là aussi, il y a énormément d'Arabes qui sont là. Je ne sais par quel hasard, histoire, ils sont arrivés là, mais ce qu'on sait, c'est que c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de mal à savoir exactement le nombre de morts, parce que dans la religion musulmane, on enterre ses morts en 24 heures.
Oui.
Alors, ils ont eu beaucoup de mal à savoir. En tout cas, c'est vraiment une catastrophe terrible. Ils vont mettre des mois et des années à s'en remettre sur ces petits îlots-là. C'est terrible quand ça frappe. Enfin, bon.
Oui, qui connaissait le nom de Mayotte et qui savait que c'est la France qui est là, en fait.
Oui,
il y a beaucoup de notions géographiques comme ça qui peuvent nous échapper, parce qu'il y a beaucoup de ces petites îles réparties sur la mer, là, et on ne sait pas toujours trop de qui dépendait l'île comme Mayotte. Moi, j'avais oublié que c'était français. Je connaissais le mot, le nom. J'avais déjà lu un ou deux livres qui parlaient de Mayotte. Mais de là à la situer exactement, non, comme c'était pas évident. Mais au moins, ces livres-là, comme celui de Zéliter, ont le mérite de nous remettre...
Voilà. On n'arrête pas de le dire, que la littérature, c'est important. Voilà, exactement. Merci beaucoup, mon ami Gérald. On se retrouve le mois prochain, certainement.
Même pas,
allez, on va dire dans 2 semaines. Allez, soyons fous.
D'accord.
Allez.
Au plaisir.
Prenez soin de vous. Allez, salut, bye. Merci. trois nouveautés, en espérant qu'on aura assez de temps pour cela, mais je vais tout faire pour. D'abord, une nouveauté pour adultes, je ne vous le cache pas, c'est un sujet difficile. La sage-femme d'Auschwitz, c'est le tome 1, donc j'imagine qu'il y en aura ou qu'il y en a d'autres. Best-seller, inspiré d'une incroyable histoire vraie, écrite par Anna Stuart et lue en livre audio par Christelle Ledroit. C'est Lizzie qui a produit la version audio de ce livre. Mais c'est un livre qui a été inspiré de la vie d'une femme, et pardon pour la prononciation polonaise, Stanisława Leszczyńska, qui est née en 1896, qui est morte en 1974, et de son livre à elle intitulé « Le rapport polonais Oświęcimia ». Bon, j'ose le dire comme ça, comme je le lis. Autrement dit, le rapport d'une sage-femme d'Auschwitz. Et c'est un roman qui s'inspire plus librement de la fille, d'ailleurs, de cette femme-là, Sylvia, puisque Anna Stuart, en créant l'infirmière Esther, en fait une jeune juive, Anna Stuart, l'écrivaine, a fait de Esther, la fille de cette femme-là, qui a écrit le rapport, une jeune juive. Ces deux femmes-là, et ça c'est vrai, ont procédé dans les camps de concentration de Birkenau d'abord et d'Auschwitz en plus après, à plus de 3000 accouchements, imaginez. Quelques centaines d'entre eux étaient blonds aux yeux bleus, comme par hasard. Ceux-là ont été enlevés et germanisés, et rares sont ceux d'ailleurs qui ont retrouvé leurs racines malgré le discret tatouage qu'Anna effectue à leur naissance. Et à la libération, elle rentre à Lodz et la sage-femme rencontre le 27 janvier 1970 plusieurs mères d'Auschwitz et leurs enfants. Stanisława Leszczyńska est morte en 1974. En 1983, l'école des obstétriciens à Cracovie est renommée en son honneur. Et des catholiques polonais demandent à Rome sa canonisation, qui est en cours d'instruction. Voici un extrait de La sage-femme d'Auschwitz. Je vous dis tout de suite, c'est un extrait pas facile à entendre, mais c'est le thème de ce livre.
Encore vivant ? Intéressant. Le nouveau docteur nota quelque chose dans son petit carnet en cuir et Anna résista à l'envie de lui arracher des mains son beau stylo plume pour le lui planter dans un œil. Le sujet, intéressant, était un nourrisson né 4 jours plus tôt de Madame Heim, une juive qui avait perdu ses 3 autres enfants dans les chambres à gaz dès leur arrivée. La femme étant d'ample constitution, sa grossesse avait d'abord été bien cachée, jusqu'à ce que 5 mois de dur labeur dans l'élevage de poissons voisins du camp lui ait fait fondre assez de graisse pour que son ventre devienne protubérant. Il avait été question un temps de la livrer au docteur Niervitzki, qui menait d'épouvantables expériences pour faire avorter et stériliser les femmes. Et puis ce nouveau médecin l'avait vue, et elle avait été désignée pour participer à d'autres expérimentations, différentes mais non moins cruelles. Le docteur Joseph Mengele, médecin en chef du camp des Roms de l'autre côté des rails, désirait savoir combien de temps un nouveau-né pouvait survivre sans nourriture, et suivait l'état du fils de Rebecca Heim depuis la naissance de celui-ci. Depuis peu, les bébés nés de femmes non-juives étaient enregistrés comme détenus des camps, et se voyaient eux aussi attribuer un matricule, que leur tatouait sur la cuisse une pfanie, semblant prendre un étrange plaisir à cette tâche. D'après les observations d'Anna, il ne s'agissait pas tant d'un plaisir lié à la douleur infligée au bébé que d'une sorte de fascination artistique. Parfois, à ses heures perdues, Fanny dessinait des motifs sur sa propre peau ou sur celle de ceux assez fous pour la laisser faire. Quoique simple, ses œuvres possédaient toutefois un certain style. Le style Auschwitz, comme l'appelait la prostituée artiste. Les numéros qu'elle imprimait dans la peau des bébés ne leur servaient pas longtemps. Peu de mères parvenaient à les maintenir en vie plus d'une semaine ou deux, ce qui était déjà beaucoup plus que ne pouvaient l'espérer les petits juifs. Clara et Fanny avaient encore la permission, et même l'ordre, de tuer tous les bébés juifs à la naissance, et rôdaient dans le bloc 24 dès qu'elles savaient qu'une femme approchait du terme de sa grossesse. De loin en loin,
Anna avait pu cacher un enfant né en pleine nuit, lorsque le duo despotique ronflait dans leur chambre privée, mais seulement un jour ou deux. Ces harpies repéraient les bébés comme les rats sentent l'odeur de la viande en décomposition. Seul le bébé de Rebecca avait été gardé pour l'étude diabolique de Mengele. Plus rageant encore, la femme qu'il avait choisie, à la différence des autres mères épuisées, semblait avoir quantité de lait à offrir. Constatant cela, Mengele lui avait bandé la poitrine si étroitement qu'on se demandait comment la pauvre femme parvenait encore à respirer. Mais au bout de 4 longs jours, la mère et l'enfant étaient toujours vivants. Mengele inclina la tête sur le côté, tapota son stylo contre ses dents parfaites et déclara soudain « C'est assez. Bloc 25. » Anna déglutit à vide à l'évocation de l'antichambre des fours crématoires. « Pardon, Herr Docteur ?» essaya-t-elle. Il la dévisagea. « J'ai dit, envoyez-les au bloc 25, infirmière. »«
Je suis sage-femme, Herr Docteur. »
Il inclina la tête de l'autre côté.
« Ah oui, comme c'est curieux. »
Oui, pas facile. La sage-femme d'Auschwitz, c'est lu ici par Christelle Ledroit, livre écrit par Anna Stuart et actuellement porté sur les écrans, sur les grands écrans et sur le petit écran par Netflix. C'est une série. Allez, on va faire dans le plus léger, mais surtout pour les plus jeunes. Pour les 8 à 12 ans, Céleste, ma planète, de Timothée de Fombelle, lu par Anne Lecoutour et Quentin Thébault. Une planète enfumée, des hommes qui s'élèvent en gratte-ciel, tour de briques et tour de verre, toujours plus haut au-dessus du nuage de pollution. Là-dedans vit un adolescent dans un appartement immensément grand, d'une tour, donc d'une de ces tours-là, à la façade de verre. Il est riche d'un ami, il est riche d'un piano, mais il n'est pas comme les autres. Voilà un garçon qui ne se console pas avec des jeux vidéo ni avec son frigo rempli en ligne chaque lundi, mais avec les touches du piano et son pinceau sur les murs. Et avec ce pinceau, il dessine des cartes du monde et il joue sur son piano des airs tristes. Bref, il remplit sa solitude. Et un jour, il croise Céleste, une jeune fille peu ordinaire qui fleure bon la terre et qui donne envie de cueillir des fleurs, de sauver la forêt d'Amazonie. Vous l'aurez compris, c'est un conte magique pour donner l'idée de sauver la planète. En voici un extrait.
Brice venait à la maison, dans la tour Immensity, après l'école. Il attendait avec moi son père qui travaillait tard le soir.
Brice !
Toujours la même scène, vers minuit.
Brice !
On voyait son père accroché à sa nacelle qui appelait et toquait à la fenêtre. On ouvrait. Le ronflement de la ville entrait dans la pièce. Ça sentait le produit pour vitre, une odeur de pâte à ballon. Brice montait dans la nacelle avec le laveur de carreaux.
À demain !
Ils descendaient ensemble le long de la paroi de verre. Ils rentraient chez eux dans la nuit. J'aimais beaucoup le père de Brice, son métier d'acrobate accroché au tour. J'aimais beaucoup Brice, aussi. Je sais maintenant que je leur dois tout. Brice, lui, aimait bien ma mère. Il me le disait pour me réconforter. C'est plus facile d'aimer les gens quand on ne les a jamais vus. Car ma mère n'était pas là. Jamais. Elle travaillait chez Industrie. Vu sa coiffure, elle devait être dans les chefs. Elle travaillait énormément. Elle voyageait. Moi, je la voyais une fois par mois dans la salle d'attente de son bureau. Elle me remplissait le frigo en ligne, tous les lundis. Elle voulait que je ne manque de rien. Le livreur sonnait à 22h. Ça faisait des quantités astronomiques. 8 caisses tous les lundis. J'avais le temps de manger 3 œufs, des pâtes et des brocolis dans la semaine. Pas plus. Puis ça recommençait. 8 caisses. Le frigo en ligne, c'était mon cauchemar. Je n'arrivais pas à suivre. Une fois par semaine, le téléphone sonnait.
Tout va bien, mon chéri ? Tu as ce qu'il te faut ?
Ce n'était pas ma mère. C'était sa secrétaire, Grunda. Ma mère n'avait pas le temps. Heureusement, j'avais Brice. Il travaillait le frigo pendant que je dessinais mes cartes. Parfois, après 16 fromages blancs et 1 kilo de pistaches, il avait l'impression de prendre le dessus. Mais il restait les 24 tubes de chamallow à boire qui le narguaient avec leurs grands yeux roses. Brice jetait un mètre cube d'emballage vide tous les soirs avant de partir. Je me souviens du bruit du plastique écrasé dans le mange-ordure. Je me souviens aussi de l'abonnement à Jeux, J-E, console. 5 jeux payés par ma mère qui arrivaient le mercredi sur l'ordinateur. Brice me rendait service. Il jouait 6 ou 7 heures en mangeant des chips pendant que je faisais mon piano dans ma chambre. Rien que le nom me faisait de la peine. Jeux, J-E, console. Je n'ai jamais appris le piano. Je joue ce que j'ai dans la tête et dans les doigts. Des airs tristes. Si j'avais vraiment écouté ce que jouaient mes doigts, j'aurais pu me douter que je n'étais pas dans la vie. Mais je ne me suis jamais ennuyé. Jamais.
Ouais, vraiment intéressant. Céleste, ma planète, lue par Anne Lecoutour et là, à l'instant, par Quentin Thébault. C'est signé Timothée de Fombelle. Beau dodo, ça c'est pour les tout petits, on descend de 2 à 5 ans. En fait, ce sont des podcasts qui sont faits par Audio, par Radio-Canada. Vous retrouvez ça donc gratuitement sur le site de Audio. C'est lu par Véronique Laveau, Fayol Jean Junior et Stéphanie Lapointe. Ce sont des textes de Stéphanie Boulet, Fanny Britt, Stéphanie Lapointe et Claudia Larochelle. Et là, on va entendre un extrait de Clémentine et la tortue magique. Voilà de courtes histoires pour aider les jeunes enfants à s'endormir paisiblement. De riches univers sonores et musicaux portent les fables modernes imaginées par les autrices que je vous ai citées un petit peu plus haut. Et chaque histoire s'achève par une douce pièce musicale qui permet aux enfants de poursuivre le récit dans le monde du rêve. Allez, on va faire connaissance avec Clémentine et la tortue magique.
Eh bien moi, je connais une petite fille qui s'appelle Clémentine et qui, il y a longtemps de ça, était toujours fâchée. Oui, oui, toujours. C'est que Clémentine était une petite fille bien capricieuse. Absolument tout la rendait triste ou contrariée et rien au monde ne la faisait sourire. Jamais. Disons simplement que Clémentine parvenait toujours à trouver une bonne raison de se mettre en colère. Voici la liste des choses que Clémentine détestait. Le vent dans ses oreilles.
Je déteste le vent dans mes oreilles.
Le klaxon des voitures, surtout ceux des mariages heureux. Et même le chant des oiseaux. Évidemment, à cause de son mauvais caractère, Clémentine n'avait pas un seul ami. Ses journées, elle les passait à s'amuser, toute seule. L'endroit où Clémentine préférait se retrouver, c'était à la mer, durant les jours de pluie. Oui, parce que ces jours-là, pensait-elle,
« Il n'y a personne pour me déranger et c'est parfait. Je préfère jouer tranquille à mes jeux sous la pluie que d'avoir à les partager. »
S'il y avait bien une chose que Clémentine adorait, c'était de compter. Alors il lui arrivait souvent de s'asseoir à quelques mètres de l'eau pour compter les grains de sable que les vagues poussaient jusqu'à ses pieds.
1243, 1244, 1245.
Mais un jour, tu sais ce qui est arrivé ? Eh bien, alors que Clémentine était en train de battre le record du plus grand nombre de grains de sable jamais comptés de l'histoire, une étrange tortue nommée Arturo s'approcha d'elle. C'était une tortue italienne de 92 ans et qui n'avait rien d'une tortue normale puisqu'elle savait parler.
Bonjour, mademoiselle. Comment t'appelles-tu ?
Ouh.
J'ai dit, comment t'appelles-tu ?
Clémentine. Ah, vous m'avez fait rater.
Ah bon ? Et qu'est-ce que tu fais de si important toute seule sur ce gros tas de sable, hein ?
Je compte les grains qui collent sous mes pieds, ça se voit, non ? Et ce gros tas de sable, comme vous dites, est le mien. Alors, oust !
Qu'est-ce que tu racontes ? La mer n'appartient à personne. Tout le monde sait ça.
Peut-être, mais je devrais recommencer à cause de vous. Vous m'avez déconcentré. Et puis, qu'est-ce que vous voulez ?
Je voulais simplement te dire bonjour.
Alors, bonjour. Et au revoir, voilà, c'est fait.
Et toi, si quelqu'un avait été méchant avec toi, aurais-tu décidé de partir? Eh bien, pas la vieille tortue. Non. Arturo ne bougea pas d'un poil. Après quelques instants, Clémentine s'impatienta.
Vous êtes encore là?
Oui. Aurais-tu seulement un minuscule truc de rien du tout à manger pour moi?
Non. Désolée.
Ce n'est pas un biscuit au chocolat que je vois dépasser juste là de ton sac?
Vous saurez, vieille tortue bizarre, que les petites filles comme moi ne parlent pas aux tortues parlantes qui traversent l'océan sans provision.
C'est vraiment bien fait, c'est vraiment adorable. Ça s'appelle Bododo, B-O-D-O-D-O. Ce sont des textes de Stéphanie Boulet, Fanny Britt, Stéphanie Lapointe et Claudia La Rochelle, lus par Véronique Claveau, Fayol Jean Junior et Stéphanie Lapointe. Et vous retrouvez ça gratuitement sur le site de Radio-Canada, livre audio. Audio. Voilà, merci beaucoup à Mathieu Tessier d'avoir été là encore une fois cette semaine. Merci beaucoup aussi à l'ami Gérald Cousineau et également toujours fidèle et présent, c'est Clotilde Seille. À la semaine prochaine. Salut!